France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes diplomate, 14 années passées auprès de François Mitterrand, puis ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Lionel Jospin sous Jacques Chirac. Et votre dernier livre, qui paraîtra mercredi chez Fayard, a pour titre « Et après ?», point d'interrogation, le monde d'après la pandémie. Et vous rappelez d'ailleurs dès les premières pages que nous avions été alertés en France et aux États-Unis. Des rapports avaient été remis pour mettre en garde contre ce type de catastrophe. Or, c'est l'objet de ce livre, nous sommes devenus sourds, aveuglés par la mondialisation. Ce monde d'après dont le monde est en quête, ce sera donc d'abord un monde qui va retrouver une capacité à tenir compte des signes, des prochains signes avant-coureurs.
Il faut le souhaiter en tout cas. Parce que ça n'a pas été annoncé que dans 2-3 pays, c'était annoncé dans énormément de pays. On voit d'ailleurs que certains pays d'Asie, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, c'est pas un critère valable sur ce point, avaient tiré de bonnes leçons de l'affaire du SRAS, puis d'autres épidémies. Et donc certains pays étaient préparés, d'autres pas. Mais j'insiste sur le premier point, c'est pas un livre de controverse et de polémique sur la politique.
C'est un livre qui veut faire un peu un inventaire des prochaines solutions.
Il faudra faire une évaluation systématique de tout partout, mais c'est une réflexion anthropologique pour que quelque chose d'aussi annoncé, qui peut d'ailleurs reprendre, pas avec ce virus, mais d'autres, c'est ce que disent les virologues en tout cas, qui ne se contredisent pas entre eux, contrairement aux médecins, pourquoi quelque chose d'aussi annoncé était presque inaudible. Parce que ça remet en cause trop profondément ce qu'est devenu la mondialisation.
Oui, au début de la pandémie.
Variées, mais enfin bon.
Au début de la pandémie, ceux qui ont tenté de tirer les sonnettes d'alarme ont été pris pour des oiseaux de malheur.
Non, attendez, il y a deux choses. Ceux qui annonçaient avant n'ont pas été écoutés parce que ça remet en cause ce qu'est devenu la mondialisation débridée, dérégulée, excessive, tout ce qu'on veut. Et par ailleurs, ceux qui disaient, mais après tout, le nombre de morts attendus n'est pas très élevé par rapport aux morts habituelles permanentes. 1600 morts, je crois, par jour en France, normalement, même sans les pandémies. Et donc tout ce qui était froid, en disant, il n'y a que l'économie qui compte, n'était pas reçu. Donc je pars de ce point, mais il ne s'agit pas d'en rester là, il faut voir quelles leçons on tire de tout ça.
On va y venir, bien sûr.
Mais justement, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de penser autrement, parce que l'imprévoyance n'est pas imputable qu'aux politiques. Nous étions, comme vous venez de le dire, prévenus de l'éventualité. Alors pourquoi n'a-t-on pas voulu voir? Est-ce un manque de courage, d'audace, d'imagination, d'invention, une capacité aussi de renoncement à un certain mode de vie?
Il y a un peu de tout. Ma remarque ne concerne pas les politiques ou les gouvernements en particulier, c'est les gens, les sociétés. Oui. C'est-à-dire comme ça, regardez, l'origine du virus, vraisemblablement, c'est quand même, pas toujours, mais dans ce cas, lié à la déforestation, à une certaine forme d'agriculture intensive, et donc on déconfine les virus, pour prendre une expression. Bon, dans ce cas-là, il y a d'autres cas où c'est pas vrai, mais ça existe si on prend les épidémies des 20 ou 30 dernières années. La propagation, c'est pas lié au climat ou à des choses comme ça, c'est lié au mode de vie, le mouvement brownien. 1,6 milliard de touristes l'année d'avant, et les milieux qui vivent de ça espéraient que ça allait encore croître. Donc c'est le mode de vie. Donc si on vous dit il y a une catastrophe annoncée, quel est notre mode de vie, ben non, les populations disent non.
On ne renonce pas, par exemple, au tourisme de masse. On n'y renonce pas comme ça, en tout cas.
Alors, moi, je pense qu'il a pris un coup dans l'aile et qu'il va devoir évoluer, mais je pense que ça explique en partie le fait qu'on peut pas entendre, c'est trop, quoi. C'est too much. C'est comme les écologistes cataclysmiques, apocalyptiques. C'est tellement terrible que les gens disent, donc on est foutu, ou alors c'est exagéré, donc le déni. Donc ça n'entraîne pas le processus qui, dans certains domaines, va se développer maintenant, et tant mieux, qui est une adaptation en profondeur.
On peut aussi s'interroger et interroger le remède. Est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Ce confinement de la planète ne serait-il pas finalement... Ma question, c'est de savoir si vous l'évoquez très rapidement dans le livre, est-ce qu'on peut finalement faire confiance à Darwin, confiance entre guillemets, au nom de la sélection naturelle, on aurait pu aussi laisser ce virus faire son œuvre. Sauf que cette solution, évidemment, elle est moralement inenvisageable, définitivement inenvisageable.
Oui, vous pouvez pas vous présenter à une élection en disant ça, vous voyez. Et c'est peut-être vrai statistiquement, l'histoire de l'immunité collective. Vous voyez, c'est un commentaire scientifique qu'on peut entendre. Mais aucun dirigeant ne pouvait dire ça. Donc c'est frappant. Tous ceux qui ont dit depuis le début il faut pas confiner parce que l'économie passe avant tout, la croissance, les emplois, donc les jobs, donc le social aussi. Ça n'a pas été entendu, c'était considéré comme immonde, comme position. Vous voyez. Donc c'est pas tenable. C'est pas tenable. C'est la première fois. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'aime pas être grandiloquent, mais c'est la première fois que l'ensemble de l'humanité a peur de la même chose, instantanément. Parce qu'en plus, il y a l'information instantanée partout qui fait feu de cheminée par rapport aux angoisses. Donc moi, je pense que les mesures qui ont été prises, parfois pas assez vite, plus ou moins bien, ça dépend des pays, mais étaient inévitables. Quand il n'y a pas encore de vaccin, on sait même pas s'il y aura un vaccin, et quand il n'y a pas encore de thérapie, ben, il faut que les gens se protègent, il faut se confiner. Donc les lamentations sur la perte des libertés étaient grotesquement disproportionnées par rapport à ça. C'est des gémissements d'enfants gâtés, hein. Donc il fallait se confiner, et puis il faut se déconfiner, et puis après il faut redémarrer en essayant de ne pas redémarrer exactement comme avant.
Eh bien un mot sur l'expression d'ailleurs, retour à la normale, c'est-à-dire cette société déconfinée, génératrice de croissance, vous dites attention car cette situation d'avant, elle n'était pas normale. Qu'est-ce, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'anormal?
Si c'est le retour à la normale et l'apostrophe, c'est pas bon, vous voyez.
On va le mettre en deux mots.
Ben, moi, je suis convaincu que par rapport à ce phénomène d'état d'hôte, il faut entrer dans un processus d'écologisation. Mm-hmm. La différence entre écologie et écologisation, c'est la différence entre un mot statique et un mot dynamique. Mm-hmm. C'est comme industrie, industrialisation. Et on va devoir tout écologiser. D'ailleurs, il y a des millions de scientifiques, d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, et beaucoup de grands chefs d'entreprise ont intégré cette donnée.
Vous voudriez même un premier ministre, d'ailleurs.
Non, je suggère en
de un vice-premier ministre qui superviserait les politiques publiques.
Donc, qui superviserait pas ça. Enfin, je pense qu'on peut pas faire gérer l'écologie par un ministère en particulier, surtout si on le mélange avec le ministère de l'industrie. Du coup, il y a plus rien. Comme je pense qu'il faut refaire un petit ministère de l'industrie pour orienter, inspirer la réindustrialisation qui a été excessive en France. Erreur que les Allemands n'ont pas fait, par exemple. Vous voyez. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit horizontal, près du Premier ministre, j'appelle vice-Premier ministre, on peut l'appeler autrement, et qui disent à chaque ministre, quel est ton programme d'écologisation? Qu'est-ce que tu peux faire dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Alors, le ministre de l'Agriculture va dire, la FNSEA veut rien faire. Bon, alors, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire dans 2 ans? Si c'est pas, vous voyez, c'est une sorte de whip, de fouet. Mais c'est pas un gestionnaire. Donc, je pense pas qu'on puisse gérer. Il faut mettre les choses dans un processus dans le temps. C'est pour ça que j'insiste sur écologisation. Parce que si on est à l'instant T, il y a des gens pour et contre, et puis on se dispute, et il y a des positions extrémistes, ça ne fonctionne pas.
Et repenser
et
le business mondial...
À tous les domaines. Hein.
Repenser le business mondial au regard, donc, et en France en particulier, au regard de cette écologisation.
Énormément de chefs d'entreprise l'ont compris, ça. Donc, et même des investisseurs. Par exemple, le fonds de pension norvégien, qui est le plus grand fonds de pension de gestion de retraite au monde... Il sort des énergies non renouvelables. Par exemple, ils n'investissent plus là-dedans. Mais ça ne s'applique pas au nucléaire. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Je le redis parce qu'il y a 2/3 des Français qui croient que le nucléaire émet du CO2. Donc si la priorité, c'est vraiment l'affaire du climat, il y a la biodiversité et tout le reste, mais il est clair qu'on ne peut pas se passer du nucléaire. L'Allemagne l'a fait, trop tôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relancé le charbon.
Oui.
Donc le CO2. Donc faut admettre. Alors je sais bien que c'est compliqué pour les écologistes qui ont fondé leur identité sur la dénonciation du nucléaire, mais ce n'est pas écologique de fermer prématurément des réacteurs si à la place on a recours au charbon. Donc faut l'inscrire dans le temps.
Mais prendre en compte aussi peut-être les conséquences de ces actes. Vous parlez à un moment donné de Jacques Chirac. Alors de ce point de vue-là, on peut peut-être se dire que c'est la fin d'une certaine désinvolture. Quand la voiture allait très vite, on était très contents. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que la voiture faisait beaucoup de morts. Donc oui. Il a fallu créer une limitation de vitesse.
Et les gens hurlaient à la fin des libertés. Quand il fallait mettre la ceinture de sécurité.
De la même façon qu'ils hurlent la fin des libertés quand on veut encadrer.
Oui, c'est exagéré. Bon, il faut se protéger, il faut se préparer à la suite. Il faut étudier la Corée du Sud, par exemple, c'est intéressant. Pourquoi certains lenders allemands, pas tous d'ailleurs, mais certains lenders s'en sont mieux sortis, ou l'Autriche. Donc je pense qu'il y a des leçons à tirer, pas des règlements de compte politiciens internes à chaque pays, ça n'a pas grand intérêt en fait. Il faut tirer des leçons parce que ça peut recommencer.
Et vous
tirez... donc écologiser tous les domaines, agriculture, industrie, transport, etc.
Évaluer aussi, c'est l'un des mots de votre livre, il faudra faire une série d'évaluations, mais se dessine-t-il aux quatre coins de la planète la même volonté d'aller évaluer dans tous les domaines qu'on va explorer dans un instant, mais est-ce qu'il y a une volonté d'aller évaluer justement, tirer les leçons de cette pandémie?
Pas encore, mais il y a évidemment la tentation des règlements de compte pays par pays. En disant, en attaquant le gouvernement qui était là, le président qui était là, qui a mal fait ceci, cela. Bon, on peut pas l'éviter complètement, il faut le faire en démocratie, mais ça dépend si on le fait pour régler des comptes, je réemploie la formule politique, ou ici c'est pour tirer des leçons pour la fois suivante. Et moi je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'humanité se prépare mieux, que l'humanité fasse globalement ce qu'avait très bien fait la Corée du Sud et deux ou trois pays d'Asie du Sud-Est, en disant, si ça recommence, il faut qu'il y ait une alerte immédiate.
Et donc, une coopération sanitaire internationale?
Alors après, oui, dans certains domaines, mais il faut que on ait intégré ce qu'était la politique donc d'alerte, et puis les tests, et puis les masques, et puis évidemment, là, on aura peut-être des thérapies par la suite. La coopération, il faut qu'elle soit poussée le plus possible, mais jamais la coopération internationale dispensera les gouvernements nationaux ou régionaux de faire le job. Faut pas que ce soit une sorte de providence miraculeuse. C'est comme la fameuse imaginaire communauté internationale. Ça ne nous dispense de rien. Mais vraiment, la coopération maximale. Alors évidemment, il y a des pays qui veulent pas, des gouvernements qui veulent pas, les comportements
non seulement qui ne veulent pas, mais qui ne sont vraiment pas d'accord. Comment est-ce qu'au moment d'évaluer, au moment de faire la grande évaluation que vous prenez dans votre livre, comment est-ce qu'on pourra contourner l'obstacle des divergences entre les États-Unis et la Chine et la mauvaise foi réciproque de chaque côté?
Alors là, c'est un autre sujet parce que là, qui rejoint celui-là, vous avez raison, parce que l'antagonisme, le bras de fer sino-américain va dominer les années qui viennent, voire les décennies qui viennent. Il y a aussi des opinions publiques dans ces pays. Il peut y avoir quand même une pression internationale. Et je n'exclus pas que la Chine veuille montrer que quand même elle joue le jeu jusqu'à un certain point. Pour le moment, c'est pas la Chine qui s'est retirée de l'OMS, c'est les États-Unis. Et puis il y a une réunion très importante l'an prochain en Chine, qui est la COP biodiversité. Vous savez, il y a les COP climat, là, dont la célèbre COP qui avait lieu à Paris, avec les accords de Paris,
COP 21.
Qui était un point important, mais pas suffisant, il faut continuer, et il y a un rendez-vous l'an prochain. Donc il peut y avoir, moi je suis hyper réaliste, comme tout le monde le sait, je ne crois pas à des espèces de gouvernance mondiale imaginaire, il ne faut pas d'ailleurs la souhaiter maintenant, parce que si on avait une, ce serait sur la base d'un accord sino-américain. Donc ce ne serait pas génial de notre point de vue. Bon. Mais je crois quand même que l'interaction des opinions, à condition que ce soit pas simplement sur une base alarmiste, ou paniqué, vous voyez, ou apocalyptique, mais autour de feuilles de route. Voilà ce qu'on peut faire. Et une meilleure évaluation précoce, suivie d'une meilleure réaction avec une très bonne coopération, ça c'est un objectif atteignable en matière sanitaire. On peut pas le faire sur tous les plans. Quant à l'écologisation dont je parle, elle se produira à des rythmes différents selon les pays, les endroits, les sujets. C'est pas la même chose pour l'agriculture, ou pour les batteries de l'avenir, ou pour la construction à énergie positive, c'est différent. Mais je crois qu'il vaut mieux entrer dans ce mouvement général plutôt que de le contester par des arguties ou traîner les pieds ou contester.
Parce que la mise en évidence aussi de cette pandémie, c'est que ce ne sont plus les Occidentaux qui donnent le là vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est notamment. Nous sommes des Occidentaux, on va mettre l'expression entre guillemets occidentaux, nous sommes des Occidentaux vieillissants, ça se passe ailleurs et on ne doit plus considérer la puissance asiatique comme si elle devait rester sur les dogmes vieillissants, nos dogmes vieillissants.
Bon là...
Bah c'est dans votre livre, hein.
Oui, oui.
On passe un peu, c'est pas du coq à l'âne, mais c'est aussi des chapitres de votre livre.
Bah oui, on n'a pas trois heures devant nous, donc
exactement.
Il faut galoper.
Bon.
Non, moi ça fait très longtemps que parmi d'autres, je dis les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance, de l'influence, donc des termes, des concepts, de la hiérarchie morale, de ce qui est bien ou pas bien.
Et pourtant ce serait à eux de donner les valeurs et les normes.
Non. On n'a pas perdu le pouvoir, on a perdu le monopole. Donc on est en... relation, coopération, compétition, rivalité avec d'autres entités. Vous savez, les fameux pays en voie de développement sur lesquels on pleurnichait quand ils ne se développaient pas, ils sont devenus des dragons monumentaux, à commencer par la Chine. Donc il y en a d'autres. Moi, je ne vais pas jusqu'au théoricien chinois ou singapourien qui disent que c'est la fin de la parenthèse occidentale, qui dure depuis 3-4 siècles. Je ne vais pas jusque-là. Mais on n'a pas le monopole. Donc il faut entrer dans un jeu coopératif. Par rapport à ça.
Et il y a un match à gagner dans cette affaire.
Mais c'est pas l'affaire du virus. Hein. Tout le monde le sait depuis des temps. Enfin, tous les spécialistes le savent depuis des années. Ben non, la seule réussite, c'est la coopération.
Hein. C'est pas et l'Europe.
Eh ben, l'Europe, c'est toute la question. Les Européens, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, ils ont abdiqué toute idée de puissance, en fait, parce qu'ils ont considéré que c'était atroce, et c'est ça qui conduisait aux horreurs que l'on a connues. Et dans leur immense majorité, ils ne voulaient pas d'Europe puissance. Ça leur fait peur, ils trouvent ça pas bien. Les rapports de force, ils trouvent ça atroce, ils espéraient que ça avait disparu. D'une plaisanterie cruelle que je fais depuis longtemps, ils étaient devenus des bisounours. Sous protection américaine, naturellement, alors que le monde ressemble à Jurassic Park. Bon, donc il y a un réveil à souhaiter des Européens.
De souveraineté technologique, par exemple ?
Oui, donner du contenu à la notion de souveraineté européenne, ce qui ne doit pas éliminer la souveraineté nationale. C'est en combinant des pays qui sont sûrs d'eux et à l'aise dans leur basket, on pourrait dire qu'on a une Europe forte au total. Mais la Commission européenne actuelle, celle de Mme von der Leyen, avec Vestager, avec Timmermans, etc., est très intéressante parce qu'elle commence à parler comme ça. Alors qu'aucune commission européenne, depuis 20 à 30 ans, depuis Delors qui a dit beaucoup de choses intelligentes sur tout ça, ils ont dit le contraire. L'Europe n'a qu'à se fondre dans la mondialisation, et qui va régler tous les problèmes, et c'est par le développement, la croissance, le commerce, qu'on va tout régler, l'attachement des peuples à leur histoire, c'est débile, c'est dépassé, on s'en fiche. Bon. Il y avait une espèce d'approche incroyablement simplificatrice, qui a d'ailleurs nourri le populisme, qui est une sorte de réflexe d'abandon, de plainte contre l'abandon. Et donc la commission actuelle va dans une très bonne direction par rapport à ça. Et c'est très important, parce que si les Européens ne se résignent pas à se comporter un peu en puissance, puissance raisonnable, pas agressive, en tout cas pour que l'ensemble des autres ne nous marche pas dessus, quoi. Si on se résigne pas à ça, on est écartelé dans les années qui viennent entre la Chine et les États-Unis. Et les Européens eux-mêmes seront divisés.
Sauf qu'au moment de payer l'addition, et on l'a encore vu hier, les pays les plus, je ne veux pas dire radins, mais enfin les pays du Nord ne veulent pas payer pour les pays du Sud.
Oui, mais ce que j'indique, c'est pas simplement des questions budgétaires, c'est
non,
une question
bien sûr.
Mentale.
Bien sûr.
Mentale. Ça se traduit par le choix d'une technologie plutôt que d'une autre, etc. Et puis là, la négociation en cours, elle finira par aboutir. C'est autre chose, c'est comment est-ce qu'on finance le plan de relance. Et est-ce que ce sont uniquement des subventions non remboursables, ce que contestent les quatre pays dont vous parlez, ou en partie remboursables, ou en partie des prêts, etc. Il y aura un compromis à l'arrivée. C'est un effort énorme, dont il faut souhaiter qu'il soit convergent avec le Green Deal lancé par Madame von der Leyen. C'est très important. Et je répète que, même si c'est colossal, comme effort européen, c'est nouveau, ça ne nous dispense pas de tous les efforts de redressement nationaux, par exemple de réindustrialisation en partie, hein, quand ça sera rationnel, en France.
Il nous reste une minute et je voudrais aborder une de vos fonctions récentes. Vous faites partie depuis quelques semaines d'un comité d'experts internationaux chargé de réfléchir à l'avenir de l'OTAN, dont Emmanuel Macron disait il y a 6 mois à peu près qu'il était en état de mort cérébrale. En quelques secondes, quels seront vos thèmes de réflexion pour renouveler l'OTAN
et pardon oui, de vous presser. Il est convenu à l'intérieur du groupe qu'on n'en parle pas du tout.
D'accord.
Jusqu'à ce qu'on arrive à un rapport, à des conclusions à la fin de l'année. Disons simplement que ce groupe a été créé, même si la bureaucratie de l'OTAN ne voit pas ça, de son, n'est pas très heureuse de ça, pour réfléchir à la suite des déclarations du président Macron. Et donc, quel est en fait maintenant l'avenir de l'OTAN, de l'Alliance, quel est l'objectif, etc.
Sachant donc, que les États-Unis se désengagent chaque jour un peu plus, Donald Trump veut encore retirer les présences américaines à Berlin.
Oui, il y a tout un débat, parce que les Européens ne jurent que par ça, hein.
Et on va finir par se demander à quoi sert ce machin.
C'est pour contribuer à apporter une réponse que ce groupe a été créé. Mais on ne communiquera sur ce groupe que
quand, d'ailleurs ?
À partir de la fin de l'année.
Eh bien, merci Hubert Védrine. Et puis je rappelle donc ce livre de réflexion qui veut faire une série d'inventaires, d'évaluations pour tenir compte de ce qui s'est passé, pour mieux envisager l'après et après, point d'interrogation, le point d'interrogation à sa place. Hubert Védrine, ça paraîtra chez Fayard à partir de mercredi prochain.